Alors, je suis née dans la capitale, c'est là où se situe bah, massivement tout ce qui est travail, éducation en principe, en majorité. Donc, c'est aussi là que, par voie de conséquence, se rassemblent les différentes ethnies qui composent le pays, donc les Kanaks, les Caldoches, les Vietnamiens, les Mélanésiens, etc. Et c'est donc là qu'on peut constater les variations de parler qui sont les plus manifestes, je dirais. Oui, c'est là où du coup bah, la diversité est plus grande, donc forcément il y a plus de choses à faire, on côtoie beaucoup plus de gens, les activités, les musiques. Oui, c'est très agréable comme milieu de vie, c'est très riche. Oui, il y a des gens qui parlent autre chose que le français, bah, notamment les Kanaks, Mélanésiens et les gens typiquement entre guillemets des îles d'à côté, parce qu'ils ont leur propre langage. Je serais incapable de le dire moi avec ma façon de parler, mais oui, on a par exemple, entre guillemets, pour simplifier la chose, trois langues kanak, mais pas une langue kanak à proprement parler, et suivant les tribus, les aires culturelles, etc., ben, c'est une langue plutôt qu'une autre qui est employée. Mais tout le monde parle le français aussi.
Du coup, est-ce que à l'école, ben, tout le monde parle français, il n'y a pas d'autres langues qui comptent quoi?
Bah, étant donné que notre système scolaire est basé sur celui des institutions françaises, on a notre programme français, donc le français est la langue parlée avec les LV2, anglais, italien, espagnol, bah, communes au système français. Mais depuis très récemment, de mémoire depuis 2 ans, parce que quand j'y étais, c'était pas encore mis en place. On a eu dans les lycées une option culture kanak où on commence à voir les rudiments de la culture et bah, certains mots de vocabulaire. Est-ce qu'il y a des cours de langue à proprement parler? Bah, pas de ma génération en tout cas. Je ne sais pas si depuis ça a été mis en place ou non. Dans le coin, à proprement parler, bah, c'est surtout le centre-ville. Donc, à part bah, comme en métropole, en zone urbaine, le shopping, le cinéma. Je ne saurais pas trop dire, c'est une ville, il n'y a pas grand-chose à faire en soi dans la ville, mais faut sortir un peu de la capitale pour faire d'autres choses, surtout notamment monter dans le nord pour. Faire un séjour en tribu ou descendre dans le sud pour faire les randonnées dans les montagnes, dans les plaines. Bon, après, on habite à côté de la mer, donc il y a forcément la plongée qui est toujours une activité sympathique. Et vu qu'on a beaucoup de vent, puisqu'on est sur les côtes, ben, tout ce qui est kitesurfing, planche à voile, tout ça.
Justement, parle-moi de la faune et la flore qui caractérisent ton pays.
On a un climat qui est assez, de mémoire, le climat est assez humide et chaud. Ce qui fait que bah, les étés sont très très rudes et les hivers assez froids malgré les 20 degrés qu'on a en général dans la période qu'on dit période de saison fraîche qui correspond entre guillemets à notre hiver à nous. Et sinon, la faune et la flore, ce qui est, on a des animaux qui sont endémiques à la Calédonie. On a notamment le cagou, qui est notre animal emblématique aussi. C'est un petit oiseau blanc qui ne vole pas et qui aboie. Voilà, ça c'est notre particularité animalière exotique. On a ce petit animal intéressant. Les légendes, moi personnellement, j'en connais pas tant que ça parce que c'est surtout du coup ce qui a bercé les tribus essentiellement. Et puis moi, j'en ai très peu côtoyé, donc je n'ai pas été familière de ces légendes-là, mais je sais qu'il en existe. Mais moi, je ne les connais pas, je suis désolée. Alors, des sorciers, des sorcières à proprement parler, pas à ma connaissance, mais on a nos petites légendes, nos petites croyances. Par exemple, on a le système d'emboucanement. C'est notre espèce de vaudou calédonien à nous. Les gens y croient ou n'y croient pas. Moi, j'y crois un peu parce que j'ai grandi dans un milieu où, entre guillemets, les gens étaient familiers à cette... Enfin, familiers, non, quand même pas. Mais c'était pas... On en entend souvent parler, entre guillemets. Donc, moi, j'y crois relativement. Est-ce que c'est de la magie à proprement parler, au sens sorcier-sorcière? Non, c'est... Non, non, non. Je pense que ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut penser, par exemple, dans les tribus africaines. Pour moi, ça se rapproche plus de ça, s'il fallait un point de comparaison.
Est-ce que vous avez des fêtes particulières?
Des fêtes particulières dans le sens qui rassemble tout le pays, on a souvent des festivals et à cette occasion, on a de la musique traditionnelle, on a des danses traditionnelles, des plats traditionnels aussi. Mais est-ce qu'on a des célébrations type 14 juillet à l'échelle locale? Non.
Est-ce que tu pourrais me parler justement d'un festival en particulier?
Un festival en particulier. Ben, moi, je me souviens surtout de celui du cerf et de la crevette qui était pas mal. Il y a vraiment de tout dans ce festival. Bizarrement, il n'y a pas que du cerf et de la crevette, mais il y a vraiment de tout. On retrouve de la nourriture, des gens qui vendent des tracteurs, des ustensiles à barbecue, parce que oui, on fait beaucoup de barbecue là-bas. Et oui, non, c'est vraiment c'est les ambiances très très festives, et puis c'est l'ambiance des îles. Du coup, les gens sont très calmes, très ouverts, on rigole beaucoup avec des gens qu'on connaît pas. Il y a une ambiance de partage, c'est sous le soleil en général, donc. Il y a vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur, ben des célébrations, festives.
Est-ce que tu pourrais me parler des spécialités gastronomiques?
Les spécialités gastronomiques, on en a pas mal, franchement, on en a pas mal, mais désolé si j'ai hésité, c'est parce que en fait, je pense surtout par rapport aux différentes ethnies qui composent le pays. On a par exemple les Indonésiens, on a le bami, on a les gâteaux claquettes que je trouve immondes personnellement. Et par exemple, voilà, ça c'est pour les Indonésiens. Après, on retrouve les nems et tout ça, les salades de poisson, que c'est plutôt tahitien. Le bami qui est plus le bami pardon non le bounia qui est plutôt kanak donc en soi est-ce qu'on a un plat traditionnel? Non, mais vu que notre pays est composé de métissage et de plusieurs ethnies, ben tous ces plats-là au final finissent par être culturels et traditionnels.
Est-ce qu'il y a des plats que tu n'as jamais osé goûter?
Oui, le ver de Bancoul et la roussette, ça c'est un truc que typiquement j'ai toujours été. Non, 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 ça non, 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 non. Parce que oui, on mange du ver de Bancoul et de la roussette, notamment pendant les festivals, mais voilà, moi ça ne m'a jamais tenté. Non, je suis désolée, non.
Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le bougnat?
Le bougnat, c'est du coup un plat traditionnel kanak. La particularité est que on le cuisine dans un four naturel, je ne saurais pas trop bien l'expliquer, mais en gros, on creuse dans la terre pour faire un four naturel et c'est à l'intérieur qu'on fait cuire le bougnat. Bon, on peut le faire à la marmite, mais traditionnellement, ça se fait entre guillemets en terre. Et c'est un mélange je ne saurais pas trop le dire, il y a plusieurs variations. On peut mettre du poulet, on peut y mettre de la roussette. Et c'est un plat assez riche et consistant en vrai, donc faut pas trop trop en manger quand même.
Est-ce que vous avez des célébrations particulières pour les mariages ou les funérailles?
Étant donné que moi j'ai plutôt été élevée entre guillemets, dans la tradition européenne, donc pas si proche que ça des célébrations tribales ou autochtones. Mais voilà, nous par exemple, c'est un truc qui se fait pas en France, j'ai remarqué, ou en tout cas j'ai pas eu l'impression que ça se faisait pour ça. Mais quand on a un mariage, en général, les gens font le tour des baies et klaxonnent. Voilà. Ça c'est un truc, c'est un signe distinctif pour les mariages, les gens klaxonnent et mettent la musique à fond dans les voitures. Voilà.
Est-ce que tu sais parler une langue locale?
Non, malheureusement, puisque ce n'est pas quelque chose qui a été institutionnalisé, non, je n'ai pas eu l'occasion de parler une des langues qu'on pourrait parler en Calédonie, malheureusement.
Alors, des choses un peu plus personnelles, qu'est-ce que tu aimes bien faire pendant les vacances?
Bah, du coup, pendant les vacances, vu que nous, on a un système, enfin, notre scolarité est décalée par rapport au système français, quand nous sommes en vacances scolaires, c'est pendant la période des fêtes. Donc, ce qui équivaut ici à bah, décembre, février. Chez nous, il fait chaud, c'est notre période estivale. Donc, puisque j'ai de la famille en métropole, souvent je pars, mais quand je reste au pays, c'est bien, du coup, de monter, faire autre chose. Bah, aller en randonnée, notamment à Point-d'Imier. D'ailleurs, à Point-d'Imier, je crois que c'est à Point-d'Imier de mémoire, j'espère que je me trompe pas. On a une poule qui est faite avec des cailloux dans le paysage. C'est là, voilà, c'est la poule de Point-d'Imier. C'est très intéressant à regarder. C'est un magnifique spot touristique. Il y a toujours des gens qui se prennent en photo là-bas, c'est très drôle. Oui, parce que voilà, ça ressemble à une poule, c'est génial. Sinon, voilà, les randonnées, aller à la mer. À la rivière aussi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pendant les vacances, aller à la rivière. Les eaux sont pures et claires. Je me souviens quand on était allé en camping de classe et qu'on faisait une randonnée à vélo, on pouvait s'arrêter à la rivière, boire directement à l'eau même. C'était pas du tout problématique, il n'y avait aucun problème. Bah pour les vacances, du coup, les vacances de métropole, je vais rentrer au pays, effectivement, y rester un mois. C'est, à mon sens, c'est le minimum de rester aussi longtemps parce que, bon, bah, c'est pas la porte à côté. Il faut au moins une journée de vol pour y aller et une semaine pour se recaler par rapport, par rapport à l'heure. Je crois que de mémoire, on a entre. Je ne sais plus si c'est 8 ou 10 heures de décalage horaire, mais ce qui fait que ben, on a quand même un sacré contre-coup qu'il faut pallier. Et voilà, c'est une semaine, entre une semaine et un peu plus d'une semaine pour ceux qui sont moins résistants, entre guillemets. Donc je vais rentrer à la période où il va faire, où on va être en saison fraîche, donc il va faire gris tout le temps. Je ne sais pas si je pourrais refaire une randonnée au Mont Cogi. Mais c'est donc oui, si j'ai la possibilité de retourner marcher près des rivières, oui, je le referai forcément. C'est très joli.
Qu'est-ce que tu penses de la France métropole, en tout cas dans les villes où tu as été?
Ben, pour avoir fait Lille et Paris, en l'occurrence, l'ambiance n'est pas du tout la même. Bah déjà, tout est beaucoup plus grand. Chez moi, c'est très petit. Indépendamment de la capitale, on est très très nombreux. Je donnais une grosse fourchette quand même pour arrondir. On est moins de 300 000. Donc forcément, j'arrive à Lille, j'arrive à Paris. Les villes qui atteignent tout de suite plus de 2-3 millions plutôt d'habitants, c'est quelque chose qui surprend. Le trafic, c'est pas le même. Le transport aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant en France. Je ne prenais pas le métro, ni le tram, ni le train et tout ça parce que bah, ça n'existait pas chez moi. Enfin, ça n'existe toujours pas. On a un réseau de bus aménagé qui est très très récent, mais non, on n'a pas de système de tram, de train. Donc le centre-ville, on le fait soit à pied, soit en voiture, mais on n'a pas de transport en commun. Donc j'ai découvert depuis très récemment le stress des transports en commun, par exemple. Et les gens qui semblent toujours pressés, qui klaxonnent, tout va toujours plus vite. Et c'est plus stressant d'être dans les grandes villes métropolitaines que chez moi.
Est-ce que tu les as quand même bien aimés?
J'ai adoré Lille, franchement. C'est pour découvrir les grandes villes métropolitaines. Je considère que j'ai fait un bon début là-bas. Les gens sont très avenants. Ils ont aussi certaines, ben certes, enfin, comment dire, certaines expressions qui sont propres à leur région, que je n'ai pas apprises parce que j'avais déjà les miennes. Mais voilà, c'est des manières, enfin c'est d'autres manières d'aborder le monde. Et quand j'ai déménagé à Paris, du coup, ben ça a été autre chose. J'ai découvert le très célèbre accent parisien et ah oui, c'est pas du tout la même chose que chez nous. Non, nous, chez nous, on a une voix qui est plutôt traînante, on accentue certaines syllabes, tout ça. Non, il n'y a pas ça ici. Enfin, c'est pas la même chose.
Tu peux me donner un exemple d'expression que tu utilises dans ton pays?
Oui, ben, je vais prendre celle que j'utilise le plus souvent. Par exemple, quand on est agacé, non, plutôt quand on est lassé par quelque chose, on a tendance à dire hi là là, avec cet accent traînant où on appuie sur le i et on allonge les a. C'est une manière de montrer qu'on est lassé, littéralement, comme on dit chez nous, qu'on est saoulé par une situation. Ou par exemple, quelque chose que je dis souvent aussi quand, bon là forcément j'aurai pas l'intonation parce que je n'exprime pas du tout de stupeur ou de surprise, mais quand je suis prise au dépourvu, j'ai tendance à dire awa, ce qui marque l'étonnement, la surprise, et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup ici, enfin moi je l'ai pas entendu et j'ai souvent, on m'a souvent considérée avec des yeux un peu étonnés quand je sors cette expression.
Des expressions que tu as retenues de Lille dont tu parlais tout à l'heure?
Des expressions que j'ai retenues de Lille. On se dit quoi? Ça là, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai retenu et la première fois que je l'ai entendu, je n'ai pas compris mon interlocuteur qui me. C'était à propos d'un exposé ou d'une sortie, je me souviens plus trop. Et mon interlocuteur, pardon, m'avait dit, ok, ben, on se dit quoi? Et j'avais pas compris. Et en fait, ça veut dire on se tient au courant, voilà.
Je connaissais pas non plus, tiens. Et est-ce que du coup, tu trouves que ça, que les accents sont très, comment dire, on peut les remarquer plus facilement quand on vient d'extérieur de la France métropolitaine? Est-ce que tu penses que
Je sais pas si on peut les remarquer quand on sort à proprement parler de la France métropolitaine. Je pense qu'à l'échelle locale, les gens savent très bien, bah, il y a toujours la très célèbre dualité nord-sud où on se moque gentiment des accents de chacun. Mais moi, on m'a par exemple dit que bah, j'avais un accent et je ne le trouve pas du tout parce que bah, je m'entends parler tous les jours et par rapport à certains du pays, je l'ai pas de manière très très prononcée. Mais c'est surtout que, bah justement, pour pas me faire remarquer en France par rapport à ça, j'ai tendance à adapter un peu ma façon de parler. Mais dès que je suis fatiguée, que je suis en